Avoir un bon sommeil, c'est un atout important pour être en bonne santé. N'est-ce pas? Plusieurs textes bibliques donnent de bons conseils pour savoir comment bien dormir. Dans Ecclésiaste 5, verset 12, il est écrit: le sommeil du travailleur est doux. Dans le psaume 4, verset 8, celui qui trouve en l'Éternel sa sécurité s'endort en paix. Cependant, dans les Écritures, le sommeil n'a généralement pas bonne presse. Lorsque Jonas est appelé le dormeur, au chapitre 1, verset 6, ce n'est pas du tout à son avantage. Au lieu d'apporter son aide au marin confronté à une tempête, Jonas est au fond du bateau, complètement inconscient de ce qui se passe autour de lui, totalement déconnecté de la réalité et du danger qu'il court. Le sommeil désigne ici, et le plus souvent dans les textes bibliques, un état d'absence, d'inconscience, d'inaction du serviteur, alors même qu'il serait urgent d'agir. Je vous propose ce matin d'aborder le thème du sommeil des disciples, en prenant appui sur le récit des disciples endormis dans le jardin de Gethsémané. Cet épisode est raconté dans les trois évangiles. Mais c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, que nous lirons ce matin. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre: vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revient vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Comme vous le voyez, ce texte porte principalement sur la souffrance de Jésus et nous allons le lire du point de vue des disciples. Et donc, il y aurait peut-être besoin de faire un autre message sur ce sujet en prenant le point de vue du Seigneur. Mais ce matin, le thème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera le sommeil des disciples. Et au verset 36 à 39, nous avons la demande de Jésus. Jésus est confronté à une angoisse terrible. Pour lui, c'est l'heure de l'épreuve. Il va être rejeté par les chefs de son peuple de la façon la plus violente, crucifie-le. La tristesse de Jésus est profonde. Quelle déception pour lui, le Fils de Dieu, d'être méprisé par son peuple. Le Messie venant est un Messie souffrant pour lequel les hommes n'ont eu aucune estime. Ayant cette perspective devant lui, Jésus choisit de se tourner vers le Père Céleste. Il se rend au jardin de Gethsémané pour prier, mais il n'est pas seul. Ses 11 disciples sont avec lui. Jésus demande à ses disciples de s'asseoir ici, pendant que lui prie là. Le Seigneur a besoin d'une intimité personnelle avec Dieu. Il entre dans sa chambre. Il met une distance entre lui et ses disciples. Il y a un moment où ceux qui accompagnent doivent s'asseoir et se tenir à distance de celui qui est dans la souffrance. Pas très loin, notre texte de la Bible nous dira à un jet de pierre, mais à distance cependant. Mais avant de se tenir seul devant Dieu, Jésus accomplit trois actions surprenantes. Tout d'abord, il prend Pierre, Jacques et Jean avec lui. Ces trois disciples sont ceux avec lesquels il a le plus d'intimité. Ce sont les seuls à avoir participé à la résurrection de la fille de Jaïrus, aux premières loges, et aussi à la scène de la transfiguration. Si à l'heure la plus sombre de sa vie, Jésus a sollicité la présence de ses disciples les plus proches pour le soutenir, ne devrions-nous pas, nous aussi, demander l'assistance de nos amis au moment de l'épreuve? Il est nécessaire de se tenir seul devant Dieu, à l'écart, dans une intimité cachée. Mais il est aussi important de partager sa peine aux amis qui nous accompagnent. Cela implique d'avoir tissé des relations fraternelles dans la famille de Dieu. La période de l'épreuve, loin d'être un temps d'isolement, est un temps de communion et de soutien mutuel. Deuxième chose surprenante, Jésus parle de sa souffrance. Il ne s'adresse pas à la foule, ni à l'ensemble de ses disciples, mais à ses disciples les plus proches, à ses amis. Si à l'heure la plus sombre de sa vie, Jésus a partagé ses émotions à ses amis, ne devrions-nous pas, nous aussi, ouvrir notre cœur aux frères et sœurs qui nous sont proches? Ouvrir son cœur, c'est potentiellement risqué. Lorsque Job a partagé sa peine, cela ne s'est pas bien passé pour lui. Et dans notre récit, Jésus ne recevra aucune consolation de ses disciples. Mais avez-vous plus de garanties qu'en restant isolé, seul face avec votre douleur, vous allez avoir une meilleure réaction? Jésus a fait le choix de la confiance. Il parle à Pierre, à Jacques et à Jean. Si nous voulons trouver du réconfort dans l'église locale, nous avons nous aussi besoin de tisser des liens avec des Pierres, des Jacques et des Jean. Et les réunions de prière, le partage d'un repas, les week-ends d'église sont autant d'occasions de favoriser notre prise de conscience d'appartenance à un corps avec tous les liens et les jointures qui relient les membres entre eux. Troisième chose surprenante, Jésus, avant de se tourner vers son Père, demande à ses proches de prier avec lui, de prier et de veiller avec lui. Nous trouvons un bel exemple dans l'Ancien Testament de ce que signifie veiller. Dans Exode 17, verset 12, lorsque Moïse priait pour le peuple qui combattait Amalek, le texte nous dit que les mains de Moïse étaient fatiguées. Moïse accomplissait un service que lui seul pouvait faire, se tenir devant Dieu pour intercéder pour le peuple. Pour l'aider à dépasser sa fatigue et accomplir son service, Moïse reçoit l'aide de ses proches. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains d'un côté, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ceux qui soutiennent les mains de ceux qui souffrent ne peuvent pas entrer par la présence de Dieu à leur place, mais ils peuvent l'accompagner à la porte du temple, comme autrefois quatre amis emportaient un homme paralysé à Jésus. Le face-à-face avec Dieu est personnel, mais l'accompagnement peut être un travail d'équipe. Si Jésus, le Fils de Dieu, a demandé le soutien de ses disciples, ne devrions-nous pas nous aussi nous appuyer sur nos amis? Jésus n'avait-il pas la possibilité de se passer des autres? Alors pourquoi cette demande? Le Seigneur donne un exemple, afin que ceux qui souffrent ne restent pas seuls, mais osent demander à des veilleurs de prier avec eux. L'isolement, la distanciation sociale des frères et sœurs n'est pas le chemin montré par le Seigneur au moment où commence pour lui l'heure de l'épreuve. Alors voilà, il y a cette demande surprenante du Seigneur, et puis il y a enfin ses disciples avec une posture qui est difficile à tenir. Car c'est dans ce contexte que les disciples sur lesquels Jésus comptait s'endorment à trois reprises. Au verset 40, il revient vers les disciples qu'il trouva endormis. Au verset 43, il revint et les trouva encore endormis. Et au verset 44, il les quitta, s'éloigna de nouveau. Ils étaient encore endormis. Alors de nombreuses personnes ne pensent à Dieu que quand ils en ont besoin. La définition du disciple est donnée en Luc 22, verset 39, c'est un passage parallèle au texte que nous avons lu ce matin. Il est écrit « Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, ses disciples suivirent. » Alors que le commun des mortels attend de Dieu qu'il l'accompagne dans leur propre chemin, le disciple a compris que son identité, c'est d'être avec le Seigneur en le suivant dans son chemin. Et parfois, ce chemin passe par Gethsémané. À l'écoute de sa volonté et de ses préoccupations, il s'agit d'un changement radical de posture avec cette question « Sommes-nous prêts à partager les fardeaux du Seigneur ?» Paul explique aux chrétiens de Thessalonique que c'est en raison de leur identité que les chrétiens doivent être éveillés. Il dit au chapitre 5, verset 4, « Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le fait d'appartenir à Dieu devrait nous rendre attentifs à tout ce qui touche ses préoccupations. Veiller, c'est vivre conformément à notre identité d'enfant de Dieu. Malheureusement, les Écritures soulignent cette réalité surprenante. Tous les disciples s'endorment à un moment ou à un autre de leur vie. Nous trouvons cette réalité dans la parabole des 10 vierges. Il est écrit « Comme les poux tardés, elles s'assoupirent toutes. » Et dans notre récit, tout semble indiquer que 100% des disciples se soient endormis. Nous avons donc la certitude d'être des chrétiens dormants à un moment ou à un autre de notre vie. Cette réalité nous remplit d'humilité et de compréhension quand nous découvrons l'un ou l'autre de nos frères ou sœurs assoupis. Nous sommes tous faits de la même pâte. Alors pourquoi les disciples s'endorment-ils à ce moment clé du récit ? Nous trouvons dans ce texte quatre circonstances non atténuantes. Première circonstance, le seder pécha. En Luc 22, versets 7 et 8, donc le passage parallèle dans l'évangile de Luc, il est écrit « Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Le soir où il fut livré, Jésus venait de célébrer la Pâque, donc juste avant l'épisode du jardin, c'est-à-dire la commémoration de la sortie d'Égypte. Il s'agit d'un repas cérémonial qui comprend la lecture de texte, la consommation de vin, en particulier quatre coupes, des histoires, la consommation d'aliments spéciaux et des chants, la coupe de bénédiction et l'hymne chanté par les disciples sont des étapes de ce repas cérémoniel. Ce seder pécha est toujours célébré par les Juifs aujourd'hui. La scène du jardin se situe donc après un bon repas, un repas de fête, où les disciples ont bien mangé et bien bu. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire après un bon repas ? On a envie de dormir. Cependant, je vais passer cette étape parce que le temps est déjà un petit peu avancé. Donc de suite, la deuxième circonstance non atténuante, c'est l'heure. Il est écrit, c'était la nuit, en Jean 13, verset 30, donc toujours un passage parallèle à ce texte, il est écrit, ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt, or, il était nuit. La scène du jardin se passe la nuit, dormir la nuit, c'est dans la nature des choses. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière artificielle pour prolonger l'activité des hommes après le coucher du soleil. Veiller, c'est donc un commandement qui est contre nature. Cette nuit est aussi à prendre de façon symbolique. Comme nous l'avons vu dans le texte aux Thessaloniciens, les disciples de Christ sont des enfants de lumière qui vivent dans l'attente du jour de la manifestation de la gloire de Dieu. Ce jour-là, quand la gloire de Dieu sera manifestée, il sera facile d'être chrétien puisqu'il fera jour. Mais dans le temps d'attente que nous vivons, la gloire de Dieu est cachée, c'est la nuit, et tout l'enjeu de la vie chrétienne est de vivre sur la terre avec les valeurs du ciel, avec les valeurs du jour, alors même que le royaume de Dieu est caché. La troisième circonstance non atténuante, c'est que les disciples sont endormis de tristesse. On retrouve ça au chapitre 22 de Luc, verset 45. Il est écrit, après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Donc peut-être une manière différente de dire que leurs yeux étaient appesantis, comme on a vu dans l'évangile de Matthieu. La fête de Pâques devait être un jour de fête, pourtant les disciples sont tristes. Pourquoi ? Bien, les disciples vivent dans un temps d'opposition. L'expression « les Juifs cherchaient à le faire mourir » revient plusieurs fois, en particulier dans l'évangile de Jean. Jésus vient de leur annoncer qu'il sera mis à mort. Judas vient de les quitter. Et en regardant à côté, Pierre, Jacques et Jean pouvaient deviner le reste du groupe en train de dormir. Difficile de faire du zèle dans ce contexte. En 2020, nous vivons une situation difficile. La pratique religieuse ne cesse de décroître, alors que la majorité des Français se rendaient à l'église dimanche au début du XXe siècle, seule une minorité fréquente un lieu de culte avec assiduité. Dans une église où une partie importante des frères et sœurs a disparu, ceux qui sont présents ne sont pas encouragés par le nombre. Nous ne sommes pas dans un temps de réveil, marqué par le zèle communautaire, mais dans un temps de tiédeur et d'endormissement. Lorsque l'un ne vient pas à l'église dimanche matin parce que le dimanche je dors, ou que l'autre ne vient pas parce qu'il préfère suivre un culte sur Internet, ce n'est pas très encourageant pour les frères et sœurs de l'église locale qui restent et continuent, dimanche après dimanche, à maintenir un service chrétien. Pourquoi persévérer ? Ne pourrions-nous pas, nous aussi, dormir un peu ? La quatrième circonstance atténuante, c'est l'heure de l'épreuve. Le jardin de Gethsémané est pour Jésus la dernière étape avant son arrestation, son jugement et sa crucifixion. Cette heure tant redoutée, mentionnée de nombreuses fois dans l'évangile de Jean, est appelée l'heure de l'épreuve, l'heure des ténèbres. Jésus dira au verset en Luc 22, 53, c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. C'est-à-dire que c'est une heure qui se manifeste par une prise de contrôle du pouvoir des ténèbres. Jésus est très conscient de cette réalité. Pour les disciples aussi, c'est un temps d'épreuve et donc leur réaction sera particulièrement inadaptée par rapport au temps où ils sont. Le jour du Seigneur sera lui aussi précédé de l'heure de l'épreuve, c'est-à-dire l'heure des ténèbres. Ésaïe interroge au chapitre 21, verset 12, « Sentinelle, à quoi en est la nuit ?»« Sentinelle, à quoi en est la nuit ?» La sentinelle dit « Le matin vient, et la nuit aussi. » Alors là, il faut m'expliquer. Soit le matin vient, il n'y a plus la nuit, soit la nuit vient, il n'y a plus le matin. Mais dans les choses de Dieu, en même temps que le matin vient, la nuit vient aussi. De la même manière qu'il faisait nuit au moment de la première venue de Christ, le monde sera dans la nuit au moment de la seconde venue, une nuit telle qu'il sera difficile de rester éveillé et de voir pour voir arriver le matin. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi les disciples étaient endormis, Comment Jésus va-t-il réagir? Eh bien, le sommeil des disciples se déroule en trois temps, trois versets qu'on avait vu tout à l'heure, et qui vont donc amener trois réactions du Christ et qui correspondent à trois sommeils, trois états dans lesquels le Seigneur peut trouver ses disciples endormis. Donc trois étapes d'endormissement. La première étape, c'est verset 40, il revient vers les disciples qui trouvent endormis et dit à Pierre. Donc c'est une étape qui est marquée un temps, qui est un temps de parole et de présence. Lorsque Jésus vient, au lieu de se mettre en colère, il choisit de parler. Cependant, cette parole n'est pas entendue par tous. Jésus s'adresse à Pierre, et en plus nommément, puisqu'il est écrit dans Marc 14, verset 37, « Simon, tu dors !» Cette phrase est ponctuée par un point d'exclamation. Pourquoi Jésus ne s'adresse-t-il qu'à Pierre? Pourquoi ne parle-t-il pas également à Jacques et Jean ou aux autres disciples endormis? Le texte ne donne pas d'explication. Voici mon interprétation. Jésus s'adresse à tous les disciples, mais seul Pierre entend. Par définition, un disciple qui dort est un disciple qui n'entend plus la voix de son maître. Et donc, il entend quoi? Eh bien, il entend une parole avec trois étapes. La première étape, c'est « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une heure avec moi ?» Jésus dresse ici un constat. Il ne cache pas la réalité. On sent de la déception. Ne pensons pas que le Seigneur soit indifférent lorsque son Église dort. Parce qu'un chrétien qui dort, rappelez-vous de ce qu'on a vu dans Thessaloniciens, finalement ressemble à un non-chrétien. Incapable d'être avec Christ, de partager ses préoccupations, ses centres d'intérêt. Et cela attriste le Seigneur, et c'est aussi une souffrance pour l'Église locale, ou pour une Église qui vit à l'unisson avec le cœur du Seigneur. Deuxième parole, il dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Jésus montre ici un chemin. Il sait que ses disciples sont dans un temps difficile, comme on a expliqué tout à l'heure. Va-t-il leur trouver des excuses? Pas du tout. Jésus ne diminue en rien ses exigences. Il attend de ses enfants qu'ils restent éveillés alors même que la nuit est avancée. Nous trouvons ce paradoxe dans la parabole du figuier. Jésus attendait du figuier, du fruit, alors que ce n'était pas la saison des figues. Et ici, il attend que ses disciples soient éveillés alors que c'est l'heure de dormir. Veiller, c'est contre nature. Le contexte défavorable n'est donc pas une excuse pour s'assoupir. Seule la vie de Dieu, au travers de l'esprit répandu dans nos cœurs, peut nous permettre de persévérer dans un contexte où tout incite au sommeil. Et puis, il dit dans un troisième temps, l'esprit est bien disposé par nature, mais par nature, l'homme est faible. Jésus énonce ici une vérité. Il ne suffit pas de dire que l'on veut suivre Jésus pour le faire. Quelques versets avant, Pierre avait dit « Même si tous les autres t'abandonnent, moi ne t'abandonnerai jamais ». Cette parole est toujours actuelle. Il ne faut pas s'attendre d'un chrétien endormi qu'il agisse conformément à sa parole. Une personne qui n'avait pas mis les pieds dans son église locale depuis longtemps, décida de retourner au culte. Au moment de se quitter, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Cyril, est-ce que tu viens me prendre hein, dimanche prochain? Il n'y a pas de problème. Oui, oui, ok, tel jour, telle heure, tel lieu. Malheureusement, il y a 7 jours entre deux dimanches. C'est bien là le problème. Et la semaine suivante, bien entendu, cette personne était de nouveau absente, sans avoir donné aucune explication, bien évidemment. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Veiller est contre nature, Jésus nous invite à veiller, il prévient que ce sera difficile. Alors comment faire pour rester éveillé? Jésus ne le dit pas, il vous faudra attendre la conclusion pour avoir une piste. Voilà donc le premier temps, le temps de la présence et de la parole. Mais nous, versets 43 et 44, nous avons un deuxième temps. Il est écrit, il revint et trouva encore endormi. Donc là, jusqu'à présent, on est dans, pareil que le premier temps, sauf que, alors qu'avant il était écrit « et il dit », là il est écrit « il est quitta, s'éloigna de nouveau ». Donc au verset 43, le temps de la parole n'a pas été saisi. C'est donc le temps du silence et de l'absence. Même si Pierre était le seul disciple auquel Jésus s'était relevé et s'était adressé, n'aurait-il pas pu sursauter, se lever et secouer les autres? Après le temps de la parole vient le temps du silence. Jésus constate que ses disciples dorment, alors il les quitte. Celui qui n'entend pas la voix du Seigneur doit s'attendre à ne plus rien entendre du tout. La nuit est une puissance qui enveloppe celui qui dort et qui nous isole. Personne ne peut résister s'il n'est à moins d'être réveillé. Le troisième temps auquel Jésus, les disciples sont confrontés, c'est au verset 45, c'est le temps de la réalité. Il est écrit « Dormez maintenant et reposez-vous ». Cette dernière parole est difficile à comprendre. Jésus est-il en train de dire à ses disciples qu'après avoir dormi, au lieu d'être réveillés, ils peuvent maintenant dormir et se reposer? En fait, Jésus dresse ici un constat. Voici, l'heure s'est approchée et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. Vous dormez et pourtant, on va rentrer dans un temps très difficile où je vais être livré et les événements vont se succéder et vous n'allez plus avoir de prise sur la réalité. Vous allez être emporté comme dans un torrent. Parce que vous avez été dormant, vous allez subir la suite des événements comme des endormis. Et il n'y aura plus la possibilité de se raccrocher, de revenir en arrière, de se dire, de se préparer. Parce que là, à partir du verset 46, les événements s'enchaînent. Et alors que vont faire les disciples? Eh bien, ils vont couper l'oreille du serviteur, ils vont renier, ils vont s'enfuir, etc., etc. Et donc ils vont, pour ainsi dire, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être endormis. Alors que Jésus, qui a fait un travail de veilleur, lui est debout, calme, et il va. En fait, c'est lui qui va diriger les événements. Quand il va être arrêté, tout le monde se met à terre, et puis il dit « c'est moi ». Et on voit qu'il a la maîtrise de toutes choses, dans toutes les étapes. Alors, en conclusion, on voit, mais pour ça il faudra lire la suite du récit, que le sommeil est une puissance conduite à la ruine. Il est écrit en Proverbe 24, versets 33 et 34, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. On est exactement dans ce proverbe avec le récit concernant les disciples endormis. La Bible nous donne donc cet enseignement afin qu'aucun de nous ne soit endormi et donc surpris par la pauvreté ou la disette spirituelle. Ce temps de sommeil des disciples sera suivi dans les chapitres suivants par un temps de restauration qui va culminer avec le don du Saint-Esprit en acte 2. L'identité du chrétien est d'être un veilleur, et si nous sommes surpris à un moment de notre parcours par le sommeil, gardons à l'esprit que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Dieu invite le dormeur à revenir. Alors comment faire concrètement pour rester éveillé? Le texte nous invite à prier ensemble. Au plus la nuit est sombre, au plus le chrétien est appelé à une communion personnelle et collective. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « N'abandonnons pas nos réunions, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Donc c'est Hébreux 10, verset 25. La première partie du verset comporte un mot difficile à traduire, le mot épisynagogue, qui ne désigne pas une église locale en particulier, mais N'abandonnez pas nos réunions, c'est plutôt à comprendre comme n'abandonnez pas la communion avec le Seigneur et tous les héritages que vous avez en lui. Par contre, la deuxième verset comporte inévitablement une dimension communautaire. En effet, comment pourriez-vous vous encourager mutuellement si vous faites le choix de vivre votre vie chrétienne tout seul? C'est difficile. Veiller est donc un travail d'église, c'est ensemble que nous traversons et que nous traverserons la nuit. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous d'être ses veillants et ses priants, ses vainqueurs capables de résister à la tentation du sommeil, le sommeil des disciples.
Amen. Merci.